commencer. Merci d'être là. Alors, je crois que c'est en 2005 que les Imaginales ont commencé à décerner leur coup de cœur de l'année, le coup de cœur du festival, à un auteur français qu'on avait envie de promouvoir, de faire admettre un début de reconnaissance. C'était décidé par Stéphanie Nicot et ses proches. Et voilà quatre des personnalités qui ont obtenu ce coup de cœur des Imaginales au cours des années. Le premier à l'avoir eu, c'est Jérôme Camus, en 2005. Il venait de terminer déjà, ou en pleine écriture de sa tétralogie Malorne. En 2006 et 2007, on oublie parce que les gens ne sont pas là. En 2008, c'est Mélanie Fazi, qui avait déjà écrit « Trois pépins du fruit des morts »,« Serpentine »,« Arlis des forains ». Notre-Dame aux écailles venait de sortir à ce moment-là. Et donc, elle a aussi été le coup de cœur en 2008. En 2009, c'est Jean-Philippe Jaworski, qui avait déjà publié un recueil de nouvelles, « Janua Vera »,« Aux moutons électriques », et qui venait d'écrire « Gagner la guerre »,« Aux moutons électriques encore ». Et en 2010, l'année passée, c'est Sir Cédric qui était le coup de cœur. Lui, il avait déjà écrit « Déchirure »,« Dreamworlds », des nouvelles, « L'enfant des cimetières », et je crois que c'est sorti l'année passée, « De fièvre et de sang ». On pourrait encore citer, par exemple, Rachel Tanner, qui a obtenu aussi ce coup de cœur des Imaginales, et Thierry Dirolo. Alors, moi, je vais un peu m'effacer, parce que le rôle de médiateur ici est absolument facile, aisé, et très confortable, puisqu'on leur demande ce qu'ils sont devenus, on va leur laisser la parole, c'est très simple. Et donc, Jérôme Camus va commencer, puisque c'est le plus ancien. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ?
Je suis là, déjà. Qu'est-ce que je suis devenu ? En fait, la question que je me pose, c'est, je n'avais pas besoin de réviser avant de venir en parler, mais ce que je voudrais savoir, c'est ce qui vous intéresse de savoir. Qu'est-ce que je suis devenu ? Par rapport à l'écriture, donc forcément, qu'est-ce que je suis devenu ? Je suis devenu deux. Mais est arrivé un drôle de truc entre 2000, enfin avant, un petit peu avant 2005. Et du coup, depuis, j'ai plus écrit seul. Et je n'écris plus qu'avec ma moitié d'orange. Et ce qui est représentatif de ce qui est devant moi, ouais. Il y en a. Donc voilà, qu'est-ce que je suis devenu ? J'ai continué d'écrire. Je fais que ça, avec bonheur, pas tout le temps, mais assez souvent. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter de plus ? Donc j'écris nous écrivons des thrillers. Des romans d'aventure, des histoires avec des affreux jojo, où il y a beaucoup de gens qui partent dans la sueur, enfin des histoires sombres, sympathiques. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus ? Que c'est tout ça, c'est avec plaisir, voilà. J'espère être lu avec plaisir et j'écris avec plaisir, donc tout le monde dit il est beau là dans la salle, c'est chouette. Vous allez parler de quoi, vous ?
On va les écouter d'abord. Alors, Mélanie, prends-le.
Et toi, alors, qu'est-ce que je suis devenue depuis donc, c'était 2008.
2008.
Depuis 2008, je sortais Notre-Dame aux écailles, qui était mon quatrième livre, mon deuxième recueil. Depuis, je n'ai pas encore republié un livre, qui soit entièrement un livre de mes textes, roman ou recueil, mais j'y travaille depuis un petit moment. Donc, j'ai participé à des revues anthologies, j'ai des nouvelles parues... je cherche les dernières, Contes de ville et de fusée, une anthologie sur les dragons, le jardin schizologique chez La Volte, quelques nouvelles que je compte reprendre en recueil à un moment donné, et pour l'instant j'ai pas encore la matière, donc j'amasse petit à petit, ça arrive. Et l'an dernier j'ai un planning de traduction très très rempli puisque je suis traductrice en de profession principale, et l'an dernier j'ai eu deux projets qui m'ont beaucoup occupée. Donc le premier que vous voyez ici, on peut peut-être le montrer. C'est un ouvrage, c'est l'an dernier, c'est donc un ouvrage illustré sur le Kadat, qui est une ville imaginée par Lovecraft dans ses textes du recueil des Monts et Merveilles. Et on s'est mis à quatre auteurs plus un illustrateur pour faire un objet qui est un peu inclassable. Je ne sais pas trop comment décrire ce livre. C'est un guide, une sorte de guide touristique. C'est aussi quatre récits de quatre rêveurs qui sont perdus dans cette ville. Et j'ai été un des personnages, donc j'ai écrit un quart de ce livre. Donc voilà. Et un autre. Enfin, j'ai un projet qui m'a beaucoup occupé l'an dernier, qui est un projet de traduction. Je ne sais pas si je peux tellement en parler. J'ai eu l'occasion de sélectionner, traduire et présenter des nouvelles d'un de mes auteurs préférés, qui s'appelle Lisa Tuttle, et c'est la personne grâce à qui j'écris ce que j'écris. Je pense pouvoir dire ça comme ça. Donc, j'ai pas beaucoup écrit finalement de textes personnels l'an dernier parce que ça a été très occupé par ces deux projets. Je crois que c'est à peu près tout pour les 3 ans.
Jean-Philippe,
qu'est-ce que je suis devenu ? Alors, déjà, je suis toujours vivant, ce qui est important, et je refuse catégoriquement de donner ma date de mort. Puisqu'on m'a vaguement demandé une question de ce type-là récemment. Sinon, j'ai un peu écrit, j'ai peu publié, en fait, j'ai publié quelques nouvelles. J'ai pas mal travaillé sur la seconde édition de mon jeu de rôle, puisque je suis aussi un nerd, j'écris du jeu de rôle, et donc j'ai publié la deuxième édition de Tédéum pour un massacre, qui était mon jeu de rôle historique. Et en ce moment, je travaille sur un gros roman de fantasy proto-historique. Et comme c'est proto-historique, ça demande beaucoup de documentation, beaucoup de spéculation, beaucoup de travail. Et je m'immerge dans une espèce de tâche monomaniaque à la limite de l'obsessionnel. Qui n'est pas très bonne pour mon état mental, à mon avis. Et c'est là-dessus, en fait, que je travaille.
Cédric ?
Et moi, c'était juste l'année dernière, donc il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai écrit un livre entre-temps, puisque donc, l'année dernière, j'avais sorti « De fièvre et de sang ». Et là, je viens de sortir un nouveau roman qui s'appelle « Le jeu de l'ombre », qui est toujours un mélange de thriller et de surnaturel, qui est le genre d'histoire que je raconte. Et c'est vrai que c'est difficile après de développer plus sur ce qu'on est devenu, surtout en un si court laps de temps.
Mais je voulais aussi savoir, est-ce que le fait d'avoir été coup de cœur des Imaginales vous a aidé dans votre guillemets carrière, Jérôme ?
J'en ai pas la moindre idée. Je suis très immodeste en plus, donc qu'on considère que ce que je fais est bien est tout à fait naturel pour moi. Non, je sais pas. Quand j'ai écrit mon premier roman, donc a été, c'est pour ça que j'étais coup de cœur, que ce que j'écris a été coup de cœur. Quand j'ai écrit ce roman, je savais pas que je rentrais dans une chapelle qui est celle des littératures de l'imaginaire. J'ai écrit une histoire que j'avais envie d'écrire et point final. Donc je déboulais ici en sachant pas trop, en m'étant jamais trop intéressé ni aux littératures de l'imaginaire en particulier. J'en avais lu plein des romans de fantastique ou de SF, mais je savais pas qu'il y avait une clientèle, qu'il y avait une chapelle, ouais. Et donc j'ai découvert ça, voilà, en arrivant ici. Et le fait d'être coup de cœur m'a dû mettre en lumière ce que j'ai écrit, sans doute. Enfin, oui, je suppose. Donc les gens m'ont découvert un petit peu. Est-ce que ça m'a aidé par la suite ? J'en ai aucune espèce d'idée.
Mélanie.
Ça a aidé effectivement sur le moment, dans le sens où on est présent à l'édition du festival où on est coup de cœur. On est programmé pour tout un tas de tables rondes, on participe à plein d'activités. Les gens savent qu'il y a effectivement ce coup de projecteur sur nos livres, donc forcément ils ont un peu plus de curiosité. Ça aide effectivement sur le moment, on le voit, on a peut-être un peu plus de monde, et de temps en temps des gens qui reviennent l'année suivante, etc. Après, de manière plus globale, je sais pas, on a des phénomènes de bouche à oreille, des gens qui effectivement ont aimé un livre, l'achètent ici par curiosité, vont ensuite en parler, etc. C'est très difficile à quantifier, mais je l'ai vu effectivement au moment où j'étais coup de cœur cette année-là, parce qu'on a un peu ce coup de projecteur, et du coup ça amène des gens qui seraient peut-être pas forcément allés vers les livres autrement.
Jean-Philippe ?
Moi je pense que ça m'a aidé parce que, pour différentes raisons, parce que le roman est paru peu de temps en fait avant les Imaginales. Il est paru je crois en février 2009, et le fait qu'il ait été coup de cœur aux Imaginales, ça a contribué justement à faire parler de lui. Alors je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est difficile de quantifier l'avantage que ça peut apporter, mais à mon avis, ça, pour ce qui est de gagner la guerre, le fait d'être coup de cœur et en plus d'être primé, ça a créé du buzz autour du roman. En plus, comme c'est un gros roman qui était cher, hein, puisqu'il est à 28 euros, mon banquier est content, hein, mais les acheteurs ne sont pas forcément. Le prix était pas forcément attractif. Et le fait qu'il ait très rapidement comme ça une bonne publicité de la part des Imaginales, ça a sans doute contribué à lancer tout un buzz qui a été relayé ensuite sur Internet et qui a dû bénéficier au roman.
Sir Cédric, tu peux déjà tirer des conclusions en un
oui,
après.
Alors en substance, oui, je pense que moi aussi, je pense que c'est difficile à quantifier réellement. En revanche, je pense que ça m'a vraiment aussi boosté. Mais au-delà de ça, je pense que les imaginales, hein, depuis le début, ont contribué à faire en sorte que mes livres soient plus connus que ce qu'ils auraient été si j'avais jamais été invité à ce festival, c'est très clair. D'autant plus que mon tout premier bouquin était sorti en 2005 et les imaginales étaient le premier festival à m'avoir invité. Donc c'était la première fois que je rencontrais réellement des lecteurs, en plus j'étais totalement inconnu à l'époque et je vendais mon bouquin à la criée dans la bulle du livre en arrêtant les gens, en leur agitant le bouquin devant en disant « Regardez ça, c'est super, c'est moi qui l'ai écrit » et ne sachant pas trop comment faire pour les inciter à acheter, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand on écrit des livres aussi, il faut les vendre, même si c'est quelque chose que l'on ferait de toute manière, même si ça ne nous rapportait pas du tout d'argent, puisque c'est une passion. Mais quand ça devient un métier, il est aussi important que le livre puisse vivre. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment l'impression que tous les coups de pouce que j'ai pu avoir chaque année successive aux Imaginales et qui a culminé l'année dernière avec donc ce coup de cœur des Imaginales ont vraiment contribué à faire parler du livre et donc à pousser certaines personnes à l'acheter. Des gens qui, sans ça, ne seraient jamais intéressés au bouquin. Et dans l'eau, il y en a qui forcément l'ont aimé, donc en ont parlé à leurs amis. Ils sont revenus cette année, par exemple, avec d'autres amis ou l'ont offert leurs enfants, leurs parents. Et donc, au-delà de la gratification, ça fait super plaisir toujours quand on est distingué pour quoi que ce soit. Je pense que ça, moi, je vois vraiment le plus que ça a apporté à la vie de mes bouquins.
Mais, oui, je renchéris sur ce que tu dis. C'est vrai qu'on voit des habitués aux Imaginales. Il y en a ici. On voit des habitués qui reviennent d'une année sur l'autre et qui nous disent qu'ils ont fait eux-mêmes de la publicité pour les bouquins et qu'il y a d'autres personnes de leur famille, de leurs amis qui ont acheté les bouquins. Donc le fait qu'on ait bénéficié comme ça d'un coup de projecteur au sein du festival, ça a attiré ces gens qui sont devenus des prescripteurs ensuite et qui ont permis aux livres de vivre.
Mais Mélanie, est-ce que ça ne reste pas malgré tout dans le milieu un peu étroit de la fantasy, la science-fiction, et donc des habituels visiteurs des Imaginales. Est-ce que ça permet aussi de sortir de ce milieu-là et de se faire connaître d'un plus grand public ?
À quel niveau, en fait,
le coup de cœur, est-ce que ça booste vraiment en dehors d'un milieu ?
Le problème de booster en dehors d'un milieu, c'est encore une autre question, et c'est quelque chose de très difficile à faire. Je ne suis pas sûre que ça, justement, pour moi, le côté coup de cœur des Imaginales, ça va s'adresser effectivement aux habitués du festival. Et c'est des gens qui déjà, me semble-t-il, viennent. Alors, ils ne connaissent pas forcément nos livres, mais ils sont déjà intéressés par ça, je pense, en venant. Donc, est-ce qu'après, c'est une répercussion en dehors ? Je ne suis pas sûre. Ça en a une à l'intérieur. En dehors, c'est très difficile de sortir de ce cercle, justement, et c'est un problème, là, pour le coup, qui ne peut pas se résumer en 5 minutes. C'est encore une autre question.
Moi, je crois pas que ça mette en lumière en dehors, que ça booste en dehors. Pour illustrer ça, on se rend compte sur les salons, enfin je pense que vous en rendez compte aussi, quand on est invité sur des salons généralistes ailleurs, nos romans fantastiques, les gens passent devant et pour une certaine partie du public, pratiquement ferment les yeux et passent leur chemin comme si c'était des livres pestiférés ou en tout cas c'est quelque chose de pas sérieux et de pas raisonnable ce qu'on écrit. Ici, la population qui vient dans le salon, ce sont des gens conquis d'avance. Ce sont des gens qui n'ont pas conquis sur nos romans en particulier, mais sur le genre. S'ils viennent, c'est qu'ils sont intéressés et clients de ce genre de bouquin. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui ne sont pas amateurs de littérature de l'imaginaire ? J'en doute. Donc est-ce que ça met en valeur nos romans pour élargir le spectre, enfin le spectre, pas le spectre, mais élargir nos lecteurs en dehors de ceux qui sont clients ? Déjà, je crois pas.
Moi, je suis pas entièrement d'accord avec ça. J'ai l'impression que... alors, c'est un avis tout à fait personnel, mais il me semble... Il suffit de voir le rayonnement du festival qui, d'année en année, est de plus en plus important. J'ai l'impression que ça draine aussi, ça permet d'ouvrir des portes à ce genre de littérature, à des gens qui, sans les Imaginales, aussi n'auraient jamais ouvert un bouquin de fantasy de leur vie.
Est-ce que c'est pas parce qu'il y a, dans les genres de la littérature de l'imaginaire... un genre en particulier, notamment ce que tu fais toi, qui est devenu de plus en plus populaire. Peut-être que la raison est là.
C'est possible. Ça, je manque de recul avec ça.
Moi, je pense que par ricochet, il peut y avoir quand même une influence sur un public qui n'est pas un public traditionnellement des littératures de l'imaginaire. Par ricochet, parce que dans les gens dans les lecteurs que je croise, en fait, je croise des gens qui en parlent avec leur famille, et dans leur famille, on n'a pas nécessairement des lecteurs de fantasy, d'horreur, de policiers, c'est plus répandu quand même. Et je croise aussi des enseignants. Des enseignants qui vont faire lire tout ou partie de certains livres qu'ils auront acquis au cours du festival. J'ai eu plusieurs retours de ce type-là. Donc à partir du moment où il y a comme ça une diffusion qui s'opère à partir des lecteurs qui sont effectivement des amateurs du genre et qui viennent au festival, je pense quand même qu'il y a une petite ouverture. Alors c'est un effet indirect, bien sûr.
Devient prescripteur, comme tu as dit tout à l'heure. Je pense que le terme est bien, et effectivement. Des gens qui, à la base, sont friands de ce genre de littérature, qui vont devenir encore plus prosélytes par rapport à leurs amis, leur famille, et donc, comme je disais, offrir même à leurs amis qui n'ont pas forcément l'habitude de lire ce genre de littérature.
J'allais dire, dans les salons, je croise de plus en plus de bibliothécaires qui viennent me voir pour parler justement, qui font cet effort de dire « j'ai aimé ce livre, je vais essayer, moi, dans ma bibliothèque, à mon petit niveau, de le mettre à disposition, d'en parler, de le mettre en avant. » Et là, pour le coup, on peut toucher un public qui n'ira pas... Enfin, qui n'ira pas forcément vers ses livres autrement. Moi, je constate, j'en croise vraiment de plus en plus. Je ne sais pas si c'est... Enfin, que j'en vois, moi, de plus en plus ou que ça se répand.
Jérôme, après le coup de cœur des imaginales, tu es parti un peu sur d'autres rives de la fiction. Explique au public qui ne le sait peut-être pas ce que tu fais exactement avec la...
Oui, parce que vous en avez tous parlé, et moi non, parce que j'essuie les plâtres. Et personne ne m'a aidé. Qu'est-ce que j'ai fait après? Qu'est-ce que nous avons fait? Je suis resté relativement sain d'esprit. Si je dis nous, donc c'est parce que j'écris avec Nathalie et on écrit notre genre à nous. C'est du polar, thriller, roman d'aventure, parfois un peu fantastique aussi. C'est difficile de mettre une étiquette toute simple, de dire est-ce que c'est un polar tout simple. Non, parce que nos flics, parfois il n'y en a pas du tout d'ailleurs, donc c'est un polar sans flics, je ne sais pas si ça existe. Donc c'est plutôt du thriller, c'est des romans à suspense, voilà. Mais on fait tous des romans à suspense. Le fait est que dans pas mal de nos publications avec Nathalie, il n'y a pas de fantastique dedans, c'est du réaliste, on va dire. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'humain, et c'est l'humain dans toute sa noirceur. Alors on rentre dans vraiment du thriller.
Et pourquoi est-ce que tu as changé de genre?
Eh bien, comme j'ai expliqué au début, j'ai commencé à écrire j'ai écrit une histoire qui, tiens, on va me coller une étiquette dessus, c'est du fantastique. Oui, c'est vrai, c'est du fantastique, j'y avais pas pensé avant. Et puis après, on s'intéressait à plein de choses, et il se trouve qu'on a eu une idée de roman de thriller qui est en plus c'est une saga, c'est en 4 volumes, dont le personnage principal est un psychopathe, un homme pas fréquentable, mais qui a une vision politique du monde assez, qui m'intéresse. Et pourquoi on est parti là-dessus plutôt que sur du fantastique? C'est pas parce que ça nous plaît. Écrire du fantastique, ça me plaît. Écrire des thrillers, ça me plaît. On a écrit des romans d'aventure. Là, en ce moment, je reviens vers le fantastique. Je suis en train d'en écrire un à nouveau. Nathalie, de son côté, fait de la littérature générale toute seule. Qu'est-ce que de la littérature générale par rapport à ce qu'on fait d'ailleurs? Elle écrit un roman. Voilà, comme on écrit nous aussi. Et puis, le prochain, tiens, par exemple, on repart sur du thriller. Et puis, la fois d'après, ça sera encore autre chose. On a l'esprit ouvert, large. Et le public aussi suit, donc c'est vraiment formidable.
On donne les titres quand même. C'est Prédation, Stigmate, Instinct et...
Et Rémanence.
Rémanence, le dernier. Et puis, depuis lors, il y a Trois fois plus loin.
Trois fois plus loin, ça c'est un pur roman d'aventure avec un tout petit quelque chose d'anticipation, peut-être. Peut-être. Et on a écrit Les Éveillés, qui est un thriller, lui qui a une base fantastique, enfin pas une base, qui a une épaisseur fantastique.
Et le dernier, c'est Les Yeux d'Harry.
Les Yeux d'Harry, qui est encore un truc à part, qui est un roman d'aventure peut-être bien, mais qui est, c'est un roman à suspense avec un héros qui est un idiot du village, un simple d'esprit. Donc un peu rigolo celui-là.
Pour ceux que ça intéresse, les premiers qu'on a cités, qui est la tétralogie des Voix de l'Ombre, je crois que tout est paru chez Livre de Poche.
Oui.
Pas le quatrième encore. Et les autres, c'est chez Kalman Levy. Par contre, Mélanie, elle est restée dans le même genre, c'est-à-dire le fantastique un peu subtil qu'elle prodigue avec tellement de plaisir de lecture pour ceux qui les lisent, dans ces nouvelles à elle. C'est vraiment ton genre, tu as envie de rester là-dedans et de continuer à travailler dans ce sujet-là.
De toute manière, oui. Alors, je pense que je serais aussi intéressée par écrire des histoires qui ne comportent aucun élément surnaturel. Ça viendra à un moment ou un autre. La question ne se posera pas, ça viendra tel quel. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé là, ces derniers jours la question pourquoi vous avez choisi le fantastique, pourquoi ce genre en particulier. Et je ne sais pas, c'est simplement... c'est un langage qui me parle, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. C'est ma manière à moi de raconter les histoires. Et je suis arrivée à un moment où des collègues avaient peut-être le choix entre plusieurs genres et essayaient un petit peu de toucher à tout. Moi, je suis arrivée en disant, je ne sais faire qu'une chose. C'est ce qui m'intéresse. Et si j'arrive à le publier, c'est formidable. Si j'y arrive pas, tant pis, je vais pas écrire autre chose, je saurais pas. Donc je crois que quelque part, je me pose pas la question, je ne sais faire que ça. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est ce petit truc que je sais faire, d'essayer de le pousser plus loin, de le retravailler, histoire de ne pas me répéter. Mais en restant sur la même voie, peut-être, oui.
Et dans ton travail de traduction, tu traduis n'importe quoi ?
Je traduis n'importe quoi, mais je reste dans... Je traduis à la fois des choses qui ressemblent à ce que j'écris et des choses qui n'y ressemblent pas du tout. Donc ça, c'est intéressant vraiment d'alterner les deux. Ce qui est rigolo, c'est que je me suis aperçue à un moment donné que j'écrivais des nouvelles de plus en plus concises. Et dans le même temps, je me suis mise à traduire des romans de fantasy de plus en plus volumineux. Ce qui est assez paradoxal, en fait. Et je m'y suis trouvée à l'aise. Et sinon, comme je parlais tout à l'heure de ce projet sur lequel j'ai travaillé l'an dernier... De traduire des nouvelles d'un auteur qui est un des auteurs dont le style est le plus proche du mien. Et ça a été très intéressant de faire ça, d'aller choisir les textes et de travailler dessus moi-même.
Cette anthologie s'appelle « Ainsi naissent les fantômes » et c'est paru dans une petite maison d'édition dont j'ai oublié le nom.
Dystopia.
Et donc, c'est des nouvelles de Liza Tuttle que Mélanie a choisies, qu'elle a traduites et qu'elle présente. Je rappelle que... Serpentine et Notre-Dame aux écailles, ainsi qu'Arlise des Forains, sont tous les trois parus chez Folio. Voilà. Jean-Philippe Jaworski parlait du prix de son premier bouquin, Gagner la guerre. Vous pouvez y échapper un peu aussi, parce que c'est aussi paru chez Folio, ainsi que Janua Vera. Est-ce que cette parution en poche pour Mélanie et pour tout le monde, c'est aussi le résultat de quelque chose qui paraît d'ici ? Jean-Philippe.
Est-ce que ça part d'ici ? Je sais que... je pense que c'est plus ancien. Pour Janua Vera, ça, je ne peux pas le dire. Il faudrait demander à Pascal Godbillon, qui n'est pas ici, mais enfin, qui est quelque part sur le festival.
Qui est le directeur littéraire de Folio.
Pour ce qui est de Gagner la guerre, en fait, il y avait un accord quasiment préalable entre Pascal Godbillon et André-François Ruault, qui dirige Les Moutons électriques. Donc Pascal Godbillon était intéressé par le manuscrit alors qu'il était en cours. Bon, il ne disait pas qu'il le prendrait, mais en tout cas, il voulait le lire dès sa parution. Et je crois qu'il m'en a parlé assez vite. Alors, je ne sais pas s'il m'en a parlé. Non, je crois qu'il m'en a parlé quand même après le Festival des Imaginales. Donc, le coup de cœur et le prix ont quand même peut-être joué dans sa décision de reprendre le roman.
C'est important, la parution en poche, Sir Cédric ? Pour Sir Cédric, c'est L'Enfant des cimetières qui est paru
mais c'est indispensable à la vie d'un livre. Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape en grand format qui sort à un prix assez élevé pendant un an à peu près. Il y a les éditions en club. En ce qui me concerne, c'est chez François Loisir. Et ensuite, pour certains livres qui en ont la chance, ils poursuivent leur vie en format poche à un prix plus attractif. Et ça permet au livre d'exister plus longtemps. Et de toucher un public aussi plus vaste. Donc c'est indispensable pour qu'un livre existe réellement. Parce qu'il ne faut pas oublier, je reviens toujours à ça, mais un livre, on écrit des livres, mais l'important c'est que les gens les lisent. Parce qu'un livre, s'il n'y a pas de lecteur, n'existe pas. Et pour revenir, par rapport à tout ce qui a été dit, je me reconnais bien dans ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure sur le fait que quoi qu'on fasse, on a envie d'y faire les gens. On fait aussi pour les autres, on colle des étiquettes sur tout le monde, sur les genres, et en ce qui me concerne, on m'a collé des étiquettes diverses et variées et contradictoires, et donc c'est marrant parfois, c'est embêtant aussi parfois, et pour en revenir aux imaginales en tant que telles, c'est quand même le sujet au départ, et à ce fameux coup de cœur, je pense que ça a aussi permis, en ce qui me concerne, à des gens qui seraient pas forcément allés vers mes bouquins à cause d'a priori par rapport à, je sais pas, mon pseudonyme idiot, mon look un petit peu décalé, ou j'ai encore entendu des personnes passer tout à l'heure dans la bulle du livre alors que j'ai dédicacé et qui faisaient un grand détour en disant ah mais ça c'est du gothique, c'est pas pour moi. J'écris des thrillers quoi, et j'espère pour tout le monde en espérant divertir. Et je pense que là il y a eu aussi un effet, ne serait-ce que dans les retours presse ou d'autres choses qui ont découlé des imaginales et du coup de cœur, qui ont fait que des gens qui n'auraient pas forcément osé même sans l'acheter, emprunter une bibliothèque ou un ami un de mes livres et essayer de l'ouvrir. Voilà. Et ce problème des étiquettes, je pense que quand on écrit, j'ai l'impression que c'est le cas pour nous quatre, on a envie de raconter des histoires et on ne se pose pas forcément la question de définir le genre dans lequel on va œuvrer. On a des idées, on a des personnages en tête, on a envie de raconter des histoires qui tiennent la route et qui fonctionnent. Et moi, en ce qui me concerne, pour finir là-dessus, j'essaye aussi à chaque fois d'écrire un livre qui soit totalement différent des précédents, avec une approche différente, un rythme, un style si possible, une couleur d'ambiance, une structure tout le temps différente pour que le lecteur ne soit tout le temps surpris et ne sache jamais réellement à quoi s'attendre, tout en ayant le plaisir de retrouver mon univers qui est quand même assez spécial. Mais j'ai l'impression qu'on fait un peu tous ça. Mais les gens ont besoin de dire, ou quand on a lu un livre, j'ai tendance à faire la même chose, c'est un peu naturel. Quand on lit un livre d'un auteur qui a écrit de la science-fiction, par exemple, on part du principe que c'est un auteur de SF et que tout ce qu'il fait est de la SF, alors que c'est souvent pas le cas, je pense.
Et est-ce que tu vas nous surprendre à ton prochain bouquin, alors celui que tu prépares là maintenant ?
J'espère. disons que j'ai commencé une série, une séquence de livres qui sont où les personnages reviennent, qui sont quand même dans le même univers. J'ai encore des choses à dire sur certains personnages, donc l'année prochaine, ce sera plus ou moins directement la suite de Deux fièvres et de sang, pour lequel j'avais été coup de cœur l'année dernière, puisque j'ai vraiment envie de boucler des portes que j'avais ouvertes et de résoudre le destin de certains personnages que, d'une part, les lecteurs ont bien apprécié et qu'il y avait encore des choses à raconter et à vivre, et que donc j'ai envie d'écrire. Et ensuite, il est évident que je partirai vers d'autres pistes littéraires. Voilà. Ça, disons que ça a toujours été mon ambition, c'est vraiment d'écrire à chaque fois un livre différent. Et mes premières nouvelles étaient très sanglantes, trash, et donc les gens qui ont lu que ça s'imaginent que je fais que ça. Le dernier qui vient de paraître, la partie fantastique ou surnaturelle est très en retrait, tout en demi-teinte. On est plus dans le polar thriller. Donc ceux qui ont lu que ça, peut-être les personnes qui auront lu que ce livre pourront peut-être s'imaginer que j'écris juste du thriller teinté de fantastique, et j'écris des choses plus étranges, plus délirantes, avec des démons à 3 bits il y a quelques années, et qui m'avaient valu pas mal de critiques d'ailleurs. Et voilà, les gens qui ont lu que ça s'imaginent que je fais juste n'importe quoi. Mais donc voilà, chaque livre est vraiment différent des autres.
Jean-Philippe a parlé tout à l'heure de ce qu'il est en train d'écrire, d'un roman proto-historique. Alors, j'aimerais bien qu'il m'explique un peu tout ça, proto-historique.
La proto-histoire, c'est ce qui n'est pas tout à fait historique. C'est-à-dire, l'histoire commence traditionnellement avec les sources écrites. Donc, l'histoire commence plus tôt dans certains pays que dans d'autres. Elle commence très tôt en Chine, en Égypte, en Mésopotamie. Elle commence très tard dans le nord de l'Europe, par exemple, puisqu'il faut des documents écrits pour considérer qu'on est en histoire. Alors, la préhistoire, c'est ce qui précède l'histoire. Et la proto-histoire, c'est l'entre-deux. C'est le moment où on a une civilisation qui maîtrise l'écriture, qui commence à faire ses comptes, à noter qui est son chef, à noter cet objet, cette bouteille d'eau est à moi, et puis ensuite à raconter son histoire ou la conception qu'elle se fait de son histoire. Et puis à côté, il y a les voisins qui, eux, savent pas lire et écrire et qui communiquent uniquement par oral. Alors moi, je m'intéresse justement à une société qui ne sait pas lire et écrire, ou qui ne veut pas lire et écrire, en tout cas, et sur laquelle on n'a que des sources indirectes, c'est-à-dire de la part de ses voisins. Alors, ça se passe autour du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans la mesure où j'adopte le point de vue d'un homme de cette époque, proto-historique, il est absolument pas rationnel. Donc, le merveilleux, il le vit au quotidien. Les dieux sont là, les morts sont là. Et donc, je suis dans un cadre historique, mais en adoptant le point de vue d'un autochtone, la fantaisie est aussi présente. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus pour ne pas déflorer le sujet.
Et ça sera pour quand ?
Alors, J'ai un éditeur qui me fouette pour que ça sorte en 2012.
Au mouton.
Voilà. Bon, je lui dis oui, oui, d'un air pas forcément très, très sincère. Hein. Donc, bon, en 2012, ce serait bien, mais j'en suis pas encore absolument certain.
Mélanie, on va quand même reparler un peu de ce travail sur Liza Tuttle. Pourquoi as-tu choisi Liza Tuttle comme premier travail pour Dystopia d'une traductrice ou d'un traducteur qui propose des nouvelles et traduit ces nouvelles et les présente dans une anthologie?
En fait, c'est Dystopia qui est venu me chercher avec ce projet. Bon, ils en sont à leur deuxième livre, ça c'est le deuxième, donc c'est une toute jeune maison d'édition. Et je les ai croisés un jour, ils me disent on a envie d'un projet, on voudrait bien te le proposer à toi en particulier. On en fera peut-être plusieurs, mais on va déjà commencer par ça. On va voir un traducteur et on lui dit, en fait, tu as carte blanche, tu choisis un auteur, n'importe lequel, tu sélectionnes les textes, tu traduis, tu présentes, tu préfaces, c'est vraiment ton projet. Et j'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que Liza, donc ces textes, je les ai lus à l'adolescence, je devais avoir 17 ans, et ça coïncide avec le moment où j'ai commencé, où j'ai choisi la nouvelle fantastique. Le moment où je me suis mise à écrire en disant, voilà, j'écris une nouvelle fantastique, puis une deuxième, une troisième, et j'ai jamais arrêté depuis. J'avais déjà un peu écrit avant, mais pour moi, c'est le moment où vraiment ça a commencé. Et ma toute première nouvelle écrite, qui était très mauvaise et qui ne sera jamais publiée, du coup, était complètement pompée sur ses textes à elle. Ça a été tout de suite une influence vraiment très forte, en fait. Et c'est la personne qui m'a fait découvrir un type de fantastique que je ne connaissais pas jusque-là, un type d'ambiance particulier avec des personnages ordinaires, vraiment très ordinaires, dans des situations ordinaires. Et puis... c'est pas une menace qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient d'eux. Ça peut être des problèmes de... Enfin, les fantômes, en fait, sont le désir, la jalousie, des choses comme ça qui s'incarnent, qui vont amener le surnaturel par certains biais. Et ça nous place vraiment face à... Enfin, c'est dérangeant parce qu'on s'y reconnaît, en fait. C'est passionnant et c'est dérangeant parce qu'il y a vraiment ce rapport où elle interpelle le lecteur. Et j'ai adoré ça, j'ai eu envie de faire pareil, et donc voilà. Donc Serpentine, qui était paru en 2004, je crois, lui était dédié pour cette raison. Et donc quand Dystopia est venue me chercher, j'ai dit tout de suite, bon, je voudrais que ce soit Liza. Et en plus, j'avais lu, elle a beaucoup de nouvelles, en fait, elle a continué à écrire dans l'intervalle où elle n'a plus été publiée en France, c'est-à-dire depuis 2001. Elle continue à publier tout le temps en anglais, mais en français, il n'y avait plus rien. Et moi, j'avais lu des tas de textes d'elle, et notamment, il y en a quelques-uns qui étaient... Il y a notamment deux textes qui sont repris dans ce recueil, un qui s'appelle Le Remède et l'autre Ma pathologie. C'est des textes coup de poing qu'on se rappelle vraiment des années après. Donc tout de suite, j'ai su que si je faisais un projet, d'abord ce serait elle et qu'ensuite, notamment, ces textes-là, ils seraient. Puis après, il y a eu un peu un travail de prospection, des échanges avec elle. Elle m'a envoyé des textes récents que je ne connaissais pas. J'ai construit le projet. Mais à la base, c'était ça. Il y a un auteur qui m'a marqué, j'ai presque envie de dire, qui m'a faite. Parce que ce que j'écris, ça vient d'elle en partie. Donc j'aimais bien l'idée, comme elle n'est plus publiée en France depuis 10 ans, en plus, je peux faire ce renvoi d'ascenseur. Et ce qui est curieux, c'est que maintenant, je la fais découvrir à des gens qui connaissent mes écrits, qui ne connaissent pas les siens. C'est assez paradoxal en même temps.
Voilà, je vous engage à lire ça aussi. Jérôme, j'ai envie de faire parler un peu sur ta manière d'écrire, puisque vous écrivez à 4 mains avec Nathalie, qui est là dans la salle. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on parvient à écrire à 4 mains? Il y a quelqu'un qui a l'idée du scénario, quelqu'un qui fait rien que les dialogues, quelqu'un qui fait un chapitre. Comment ça se passe au quotidien et concrètement?
Elle me fouette.
Tu aimes ça?
On travaille évidemment l'histoire ensemble, parce que ça, il faut que ça soit complètement... qu'on soit complètement raccord sur l'histoire pour pouvoir écrire. Enfin, on va être tous être d'accord. Si on n'a pas l'histoire, on ne peut pas franchement en faire grand-chose. Donc quand on est deux, ça va démultiplier le problème à ce niveau-là. En revanche, concernant l'écriture, ça simplifie les choses parce qu'on va aller deux fois plus vite a priori. Mais en réalité, ça se passe assez différemment d'un roman sur l'autre et ça dépend de la structure du roman. Si on est sur un roman qui est linéaire, on suit un personnage de la première à la dernière page par exemple. Alors dans ce cas-là, on peut pas se séparer les histoires ou les personnages ou non, puisqu'on est toujours du point de vue du même type ou de la même, enfin du même personnage. Donc il y en a un des deux qui se met en tête d'écriture, qui est la locomotive, qui écrit, et puis l'autre va lui lâcher la grappe pendant un mois, 10 mois. Et une fois qu'il y a peut-être 50, 60, 70 pages d'écrites, l'autre, celui qui n'a encore rien fait, ou d'autre que de développer l'histoire. Se met derrière et reprend le texte. Et reprendre le texte, ça ne veut pas dire corriger les fautes, hein, ça veut dire réécrire. C'est-à-dire que quand j'écrivais seul, et quand j'écris seul, il n'est pas question que quelqu'un vienne derrière moi pour virer des phrases, dégager des paragraphes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais enfin, c'est très désagréable d'avoir quelqu'un qui vient derrière vous. Et quand on écrit à deux, eh ben, on a un ego à deux, Nathalie et moi, et on n'a aucun problème de ce côté-là. On sait que ce qui va être viré par l'autre, c'est parce que ça nuisait à l'ensemble. Donc pas de souci. Voilà pour l'écriture à quatre mains. Mais en réalité, dans les faits, on travaille chacun sur un ordinateur et de préférence pas dans la même pièce. Parce que sinon, on se fait des blagues, on perd beaucoup de temps. Et moi, c'est encore plus monacal parce que pas d'Internet non plus. Parce que je suis un... Pardon, je mets l'expression entre parenthèses, mais je suis un vrai branleur. Moi. C'est-à-dire ne rien faire, j'aime ça. Et si j'ai Internet, je vais sur Internet et c'est beaucoup moins fatigant que d'écrire. Donc la cellule, l'ordinateur, pas d'Internet, pas de bouquin, si de la documentation ou un dictionnaire peut-être. Allez, un dictionnaire.
Et le fouet si jamais tu succombes.
Et le fouet, c'est le plaisir le soir, ça. ça, c'est autre chose.
Vous êtes revenu chacun à écrire seul aussi. Ça a été assez facile apparemment d'écrire à deux. Est-ce que c'est facile de revenir à écrire seul ?
D'abord, elle a écrit un roman qui s'appelle L'enfant rien et c'est un enfant dans le dos qu'elle m'a fait parce qu'il n'était pas question au début dans le deal qu'elle se mette à écrire seule, donc elle se met à écrire seule. Non, je plaisante. Est-ce que ça a été facile ? Au tout début, quand je me suis remis là, sur le roman que je suis en train de terminer, j'ai eu un petit moment de vide, ouais, un petit moment de flottement parce que à deux, il arrive assez souvent que ce soit moi qui sois en tête d'écriture parce que Nathalie adore reprendre, réécrire et reprendre 100 fois le même paragraphe ou le même chapitre. C'est chose que je n'aime pas franchement faire. J'aime bien écrire et puis après reprendre, c'est une punition pour moi. Donc là, je savais que je travaillais sans filet, j'avais personne derrière moi et il a fallu que je réapprenne un peu ça. Voilà, bon, je crois que j'y suis à peu près arrivé. Mais je suis reparti sur une histoire très simple, par contre. Et puis j'écris une histoire, je plaisante en disant très simple, mais j'écris une histoire à la première personne, chose que j'aime, un style que j'aime beaucoup, et que je n'avais pas fait depuis Malorne, depuis la dernière fois que j'avais écrit seul. Et du coup, l'écriture à la première personne implique beaucoup l'auteur en tant qu'auteur. Et en même temps, on raconte, on digresse, on raconte des choses qui ne sont pas du tout nous, mais c'est simple. Enfin, c'est apparemment, pour moi en tout cas, plus simple que d'écrire à la troisième personne.
Cédric, quand on est écrivain, on sait ce qu'on va faire pour le prochain bouquin, mais est-ce qu'on a des projections comme ça à long terme, avec des histoires qu'on garde en se disant « celle-là, je la reprendrai bien », qu'on garde dans les tiroirs ou dans des bouts de carnet ?
Oui, sans doute, mais dans ce qui me concerne, c'est surtout de manière inconsciente. Parce que contrairement à Jérôme, moi j'ai une manière d'écrire assez bordélique et je suis tout aussi branleur, sauf que moi je passe beaucoup de temps devant Internet. C'est un problème, il faudrait que je pense à la cellule monacale effectivement. Mais non, j'ai l'impression en fait que je suis très très feignant de base et que tant que j'écris pas, forcément je réfléchis pas à mes histoires. J'ai des envies au fond de moi, mais qui restent au terme de vagues rêveries, et c'est dès l'instant où j'allume réellement un traitement de texte que je commence à taper mes phrases mot après mot, que je matérialise réellement mes idées et que du coup d'autres idées reviennent, se greffent, se succèdent, et où j'arrive réellement à travailler. Et du coup le plus dur pour moi à ce stade là puisque le plaisir prend le relais après la souffrance initiale finalement, et j'ai plus de mal à m'arrêter qu'autre chose, et j'ai l'impression que en fait je planifie très peu, je fais très peu de plans. Quelqu'un est mort.
Gagner la guerre.
Ah non, c'est les grandes armées, ça. C'est Waterloo. Hein.
Et donc, en fait, ouais, je pars en général d'une scène très précise et j'écris vraiment minutieusement, voilà, chapitre après chapitre. Je reviens sur mon jet fleuve du début en coupant beaucoup et j'avance par vagues successives comme ça dans le livre. Et donc, les idées fusent. Et plus j'écris, plus j'invente des situations, plus j'ai d'idées qui arrivent. Et souvent, je me rends compte que ce sont des choses auxquelles j'avais pensé peut-être l'année dernière, peut-être il y a 10 ans, des anecdotes que j'ai vécues, qu'on m'a racontées, des discussions que j'ai pu avoir aussi bien la veille, le film que j'ai vu à la télé la veille ou un livre que j'avais lu quand j'étais au collège il y a 20 ans. Et en fait... Donc j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne comme ça. Donc je ne me projette pas vers l'avenir. En revanche, à chaque fois que je me mets à travailler, c'est tout ce que j'ai emmagasiné de manière inconsciente, sans m'en rendre compte, en fait, qui revient et qui se démultiplie.
Et Jean-Philippe doit travailler. Il est enseignant, toujours enseignant.
Oui.
Et donc le travail est un peu différent parce que c'est après...
Oui, oui. Enfin, je pense que la problématique est un peu différente avec toi, puisque tu es aussi sur deux métiers. Mais oui, alors, c'est après les cours, quand j'ai encore l'énergie, parce que après les cours, ça va encore. Mais après les copies, alors là, c'est autre chose. Puisque je travaille pas mal par imprégnation, et donc après avoir corrigé un paquet de copies, ben moi, j'ai plus d'orthographe, j'ai plus de style. Donc oui, c'est par étape en fait. C'est pendant les vacances scolaires, heureusement il y a des vacances scolaires où là je peux travailler. Et puis quand j'ai achevé un paquet de copies, que j'ai un mercredi après-midi, un dimanche, là je peux m'y mettre. Donc je travaille de façon assez fragmentée et ça me ralentit. Alors je me reconnais dans tout ce que j'entends moi. C'est-à-dire que moi aussi je suis un gros feignant. Donc j'ai des tentations qui sont terribles, hein, Internet, que j'ai sur mon poste, mais je m'en sers aussi Internet, parce que c'est bien pratique pour lancer des recherches, même si c'est, il faut toujours les traiter avec beaucoup de précautions, toutes les informations qu'on récupère sur le net, ça peut donner des pistes. Bon, il y a le jeu vidéo aussi, hein, qui est furieusement tentant, hein. Là, personne n'en a parlé, mais moi j'avoue, hein. Oui, d'ailleurs, on fréquente les mêmes lieux de perdition, mais pas du même côté. On a dû un peu se taper dessus, même si on n'est peut-être pas sur le même royaume. En tout cas, des prêtresses mort-vivantes, alors je peux dire que c'est le fléau, mais bon, je ferme. Ah, c'est démoniste. Oui, c'est pas mieux. Enfin, bon. Oublions les contrôles de foule. Revenons à l'écriture. Donc oui, moi aussi, j'ai des distractions potentielles. Malgré tout, une fois que je m'y mets, alors là, je deviens un peu obsessionnel. Je me retrouve aussi bien dans la frénésie d'écrire que je peux connaître à certains moments, effectivement, avancer, parce qu'il y a quelque chose de jouissif, en fait, là-dedans. Je me reconnais aussi dans ce que tu dis à propos de Nathalie, c'est-à-dire le plaisir de revenir X fois sur le même paragraphe ou la même phrase. Finalement j'ai des façons de travailler qui sont assez variables, assez différentes entre les moments où je vais travailler le style, les moments où je vais travailler pour le plaisir d'avancer dans le récit, et les moments où je ne vais pas travailler.
Et Mélanie, comment tu sépares ton travail de traductrice et ton travail d'auteur, si tu y arrives?
Moi j'ai quelque chose qui est à la fois une chance et un problème, qui est que ce sont deux activités qui sont très proches. C'est une chance parce que du coup, je fais mes gammes sur l'écriture en traduisant. J'ai les mêmes, des problèmes de rythme ou des choses comme ça, donc j'apprends par ça aussi. J'ai les mêmes contacts dans l'édition pour les deux, donc il y a tout ce côté-là qui est très bien. Le problème, c'est que par rapport au fait d'avoir un métier salarié complètement différent comme j'ai pu avoir avant, après ma journée de traduction, j'ai plus ce type d'énergie-là, qui est le même pour l'écriture, je ne l'ai plus. Donc en général, quand je dois écrire quelque chose qui n'arrive pas si souvent, puisque je suis très lente à développer mes idées, j'ai plutôt tendance à me dire, tiens, aujourd'hui, je me débloque une journée, ça va être une journée écriture spécifiquement. La plupart du temps, je me lève le matin, je traduis, mais là, j'ai ce texte à écrire, j'y vais, et je continue jusqu'à ce que je l'ai terminé. J'ai beaucoup de mal à écrire, à trouver cette énergie après avoir une journée de traduction, alors qu'après une journée de travail, quand je travaillais dans l'hôtellerie, c'était possible. C'est le même type d'énergie, finalement. Et donc, moi, dans la mesure où j'écris quand même assez peu, les idées mûrissent lentement, la séparation se fait très facilement. Si j'ai quelque chose à écrire, je vais faire une pause de traduction, je vais l'écrire et ensuite je reprends le cours des traductions. C'est pas quelque chose qui se partage à 50-50, donc la séparation se fait tout naturellement, je pense.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question?
La question fatidique, ça.
Non, donc tout est bien clair, apparemment. Vous êtes ravis d'avoir entendu ces quatre écrivains. Alors, moi, je vais mettre un terme à ce débat, il est presque l'heure. Je rappelle que Mélanie, Jean-Philippe, Jérôme et Sir Cédric ont écrit ces bouquins que vous voyez sur les présentoirs ici et qu'ils sont à la Bulle des Livres pour les dédicacer, je suppose, quasiment tout de suite ou presque. Je rappelle aussi que le coup de cœur des Imaginales de cette année, c'est Charlotte Bousquet, qui est là aussi, évidemment, et que pour elle aussi, j'espère que c'est un petit tremplin vers un plus grand succès. Je remercie les intervenants, je remercie la salle. Bonne soirée.